qui est intéressant dans la crise que l'on est en train de traverser, c'est bien sûr les impacts que ça va avoir au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et aujourd'hui, je reçois David Giles, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Slow Democracy, qui est normalien, énarque, professeur de philosophie politique à Sciences Po, qui est également professeur de culture générale pour passer le concours de l'ENA à Sciences Po. Et avec David, on discute de la mondialisation demain. Essayer de comprendre quel a été le rôle de la mondialisation, essayer de comprendre ce qu'on doit apprendre de cette crise, essayer de comprendre aussi si on doit revenir au local, si on va pouvoir revenir à une forme de normalité, essayer de comprendre aussi le rôle des différents métiers dans l'économie aujourd'hui. Bref, on va couvrir surtout les enseignements et ce qu'on doit changer, ce qui peut se modifier après cette crise. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à David.
Bonjour Grégory.
Est-ce que tu es en bonne santé? C'est
Écoute,
la bonne, première
pour le
bonne
moment,
question.
so far so good, comme disent les anglo-saxons. J'espère que toi aussi et que tout le monde va bien autour de toi.
Nickel, tout le monde va plutôt bien autour de moi. On va faire un truc assez inédit parce qu'en fait, on a fait un épisode ensemble que j'ai pas encore diffusé et en fait, on en fait déjà un second parce que l'actualité nous y pousse et parce que tu as écrit un papier passionnant sur le sujet qui est le futur de la mondialisation. En fait, ce qu'on voit à travers la situation aujourd'hui, c'est que ben, en fait, cette mondialisation, elle nous a posé des soucis, elle nous pose des soucis. Pour toi, qu'est-ce que cette crise, cette guerre, comme dirait Macron, nous apprend de la mondialisation?
Tu as l'art d'entrer dans le vif du sujet sans ambages. Je voudrais d'abord, avant de répondre à ta question qui est évidemment vitale, dire que nous sommes face à une crise sanitaire et une crise économique, puisque de la crise sanitaire découlera une crise économique d'une ampleur inédite. Ces deux crises sont en effet globales, puisque on voit que désormais les cinq continents sont touchés par des mesures d'ordre public sanitaire très dures. Il y a près de 2 milliards d'individus qui sont confinés dans leur domicile et afin d'éviter la propagation de l'épidémie et surtout cette fameuse courbe qu'on a pas mal montrée dans les médias, d'une explosion des cas qui entraînerait la saturation des capacités hospitalières. Donc tous les efforts aujourd'hui doivent être concentrés sur la réduction, disons, de la propagation de l'épidémie, l'écrasement de la courbe, et puis aussi sur des mesures d'urgence économique qui évitent à la fois les licenciements qu'on commence à voir par millions aux États-Unis. Heureusement, en Europe, on a des filets de sécurité comme le chômage partiel qui évite cette situation. Et puis que des entreprises mettent la clé sous la porte, parce que c'est une chose que l'offre et la demande soient perturbées le temps de la lutte contre l'épidémie, et c'est même nécessaire si on veut empêcher la catastrophe sanitaire. Mais il faut pas que durant cette interruption brutale de l'activité économique, les entreprises mettent massivement la clé sous la porte ou que les salariés soient licenciés, parce que ça entraînerait ensuite des conséquences de long terme désastreuses. Le tissu économique serait durablement affecté. Et donc, il faut que la puissance publique mette tout en œuvre, à la fois sur le front sanitaire et sur le front économique. Cela étant dit, et j'en reviens tout de suite à ta question, ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir à l'après, de mettre un peu de profondeur dans ce qui se passe. Et effectivement, je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe sans réfléchir à la question de la mondialisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Depuis 40 ans, c'est une augmentation générale des interdépendances. On connaît bien les interdépendances économiques, on le voit avec l'augmentation des échanges commerciaux, par exemple, la levée des barrières douanières qui est continue depuis 40 ans. On le voit aussi avec l'intégration financière depuis les années 80. Les systèmes financiers sont très imbriqués les uns avec les autres. Et puis, on le voit aussi avec l'augmentation de la mobilité des personnes. J'ai un chiffre en tête, les flux touristiques, qui sont un bon indice de cette mondialisation. 1,4 milliard de personnes ont pris l'avion à des fins touristiques dans le monde en 2018. Donc, on voit qu'il y a des interdépendances qui sont très fortes. Et forcément, quand il y a une faiblesse, un accident qui intervient en un point local du système, si cette faiblesse n'est pas détectée rapidement ou contenue rapidement, eh ben ça peut entraîner une crise globale. On l'a vu en 2008 avec la crise des subprimes. Il y avait sur le marché du logement américain de plus en plus de ménages qui, à cause de la crise immobilière, n'arrivaient plus à rembourser leur crédit. Sauf que souvent, ces crédits hypothécaires étaient adossés à des actifs financiers. Et ces actifs financiers étaient transmis d'établissement financier à établissement financier par le jeu des imbrications de bilan. Et donc, quand le marché du logement américain s'est effondré, il y a eu des effets en cascade qui nous ont menés à la fois à la crise financière qu'on connaît, à une grave crise économique, une récession, et puis même à la crise des dettes souveraines en Europe. Et ben, même si c'est un domaine complètement différent, l'épidémie que nous traversons, que nous connaissons aujourd'hui, la pandémie même, puisque c'est un phénomène mondial de coronavirus, c'est exactement la même mécanique de propagation. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier foyer de transmission dans la ville de Wuhan, en Chine, dans la région du Hubei. On ne sait pas encore exactement quel a été l'animal qui a assuré la transmission à l'homme, qui a assuré ce qu'on appelle le passage de la barrière des espèces entre l'animal et l'homme. Mais ce qui est certain, c'est que ça s'est produit au marché des animaux de Wuhan et que très rapidement, dans cette ville, on s'est retrouvé en présence d'un foyer épidémique. Et comme les autorités chinoises n'ont pas détecté le problème suffisamment tôt et ensuite ont manqué de transparence sur la réalité de ce virus, ont étouffé les données, détruit des preuves, pourchassé les médecins qui étaient des lanceurs d'alerte, eh bien l'épidémie s'est propagée très vite à la fois dans toute la Chine et surtout dans le monde entier. Il y a un site que je vous recommande qui est le site du New York Times qui a construit une infographie de la diffusion dans le temps du virus. Et qu'est-ce qu'on voit qu'il a fait ce virus ? Si vous me pardonnez cette construction de phrase un peu maladroite, eh bien, il s'est diffusé selon les routes de la mondialisation. C'est-à-dire que il s'est propagé dans les grandes villes chinoises en empruntant les voies terrestres, puisque les porteurs voyageaient en train ou en avion à l'intérieur de la Chine, et il s'est propagé dans le reste du monde en empruntant les voies aériennes. Et c'est pas un hasard si les principaux foyers épidémiques qui sont apparus, par exemple, en Europe ou aux États-Unis, c'est d'abord autour des grands aéroports ou des hubs touristiques et commerciaux. L'Italie du Nord, c'est à la fois un hub touristique, parce qu'il y a des centaines de milliers de visiteurs en provenance de la Chine qui visitent cette région chaque année, mais c'est aussi un hub industriel. La Lombardie, c'est une région industrielle très ouverte sur le monde, une puissance exportatrice. Et les premiers malades sont arrivés dans ce hub. Et ensuite, on voit que le virus se diffuse dans l'arrière-pays. Et là, il se diffuse dans l'arrière-pays avec d'autres mobilités qui prennent le relais, qui sont pas les mobilités transfrontalières de la mondialisation, mais qui sont les mobilités locales ou régionales. Par exemple, pourquoi est-ce que le virus a autant sévi dans des petites villes en Italie comme Bergame ou Brescia? C'est pour la raison simple que beaucoup de travailleurs qui travaillent dans l'agglomération de Milan, où il y a eu le premier foyer, eh bien chaque jour font des trajets entre les petites et moyennes villes dans lesquelles ils vivent et l'agglomération de Milan. Et ils ont vraisemblablement diffusé ce virus sans le savoir, bien sûr, puisque la plupart étaient porteurs sains dans leurs cellules familiales. Et ensuite, comme il y a beaucoup de solidarité intergénérationnelle en Italie, que les personnes âgées, même très âgées, on les garde dans les familles, alors que dans d'autres pays, on les met plus souvent en établissement spécialisé, eh bien malheureusement, ces personnes ont été contaminées beaucoup plus fortement, ce qui explique probablement la surmortalité qu'on constate en Italie et qu'on commence aussi à constater en Espagne, où on a le même phénomène. Mais tout ça pour te dire que la mondialisation n'est évidemment pas la cause de la diffusion du virus, mais elle constitue ce qu'on appelle dans le langage écologique un milieu propice. Puisque tu vois bien que toutes les cases ont été cochées. D'abord, comment est-ce que ce virus se transmet de l'homme à l'animal ? Eh bien, c'est parce que on multiplie les points de contact entre la faune sauvage dans laquelle peut apparaître ce type de virus, de microbes en général et l'homme, à la fois par la monoculture intensive, par la contrebande d'animaux sauvages. Et typiquement, la Chine pose un problème de ce point de vue-là parce que c'est un pays où il y a une urbanisation qui est très forte, avec des villes construites en quelques dizaines d'années de plusieurs millions d'habitants, au contact de milieux sauvages et surtout des passages entre les deux à travers, par exemple, le trafic d'animaux sauvages, puisque les Chinois sont très consommateurs d'un certain nombre d'animaux, par exemple le pangolin, la civette. On a déjà parlé de ces choses-là. Donc, tu as un passage qui peut se faire dans ce contexte d'urbanisation. Et ensuite, évidemment, les mobilités transfrontalières se sont chargées de diffuser l'épidémie au reste du monde. Et d'ailleurs, tu remarqueras que dans l'histoire, quand il y a eu des diffusions massives d'épidémies, c'est souvent parce qu'il y avait des circulations. Alors, c'était soit des circulations liées au voyage et à l'économie, soit des circulations liées au mouvement de troupes. Mais par exemple, quand la grande peste s'est diffusée au XIVe siècle en Europe, c'était à la fois à cause des routes de la soie, c'est-à-dire des voyageurs de commerce qui avaient ramené le germe de l'Extrême-Orient vers l'Europe. Et puis, on soupçonne aussi les troupes mongoles qui ont, comme tu le sais sans doute, assiégé l'Italie et qui ont possiblement transmis aussi le microbe. Et puis, plus près de nous, la grippe espagnole dont on parle beaucoup en ce moment, puisque c'est la précédente très grave crise sanitaire mondiale, 1918-1920, là encore, ce sont vraisemblablement des soldats américains en provenance du Kansas qui ont diffusé l'épidémie en Europe. La différence entre la grippe espagnole, par exemple, et le coronavirus, c'est la rapidité de propagation. C'est-à-dire que au XIVe siècle et même encore au début du XXe siècle, les mouvements se faisaient essentiellement par voie terrestre ou par bateau. La grande peste, elle a mis 15 ans à peu près à arriver en Europe. La grippe espagnole, elle a mis un an et demi. Aujourd'hui, le coronavirus, à partir du moment où il s'est déclenché en Chine, quelques jours après, en quelque sorte, il y avait déjà des cas à l'extérieur de la Chine. Et ça, c'est évidemment lié au transport aérien. On va sûrement y revenir dans la conversation, mais ça veut évidemment pas dire qu'il faut arrêter le transport aérien ou qu'il faut démondialiser, mais ça veut dire qu'il faut compléter l'interdépendance accrue dans laquelle nous sommes du fait de la mondialisation par des mécanismes de solidarité et de protection.
Parce que effectivement, dans ce que tu dis, en fait, dans ton bouquin Slow Democracy, tu critiques quand même cette hypermondialisation. Quelque part, en tout cas, et je dis bien hypermondialisation et que je différencie de la mondialisation. Et ce qui est intéressant, c'est que on a effectivement une interdépendance internationale, globale, et en même temps, la solidarité, elle est locale. La réaction, d'ailleurs, elle est locale. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que on referme les frontières, on se referme sur nous-mêmes. On voit Trump, typiquement, qui refuse de faire du confinement généralisé. On a vu l'Angleterre qui a résisté aussi. Est-ce que, enfin, ou les Pays-Bas, enfin, finalement, il n'y a pas tant de pays que ça. Enfin, tu disais, il y a 2 milliards de personnes parce que l'Inde vient de prendre la décision, mais il n'y a pas tant de pays ça qui ont généré le confinement. On pense aussi, évidemment, au continent africain. Est-ce que ça va pas générer une envie de repliement sur soi qui va faire sans doute le lit de tous les nationalistes d'ailleurs et comment on peut éviter ça? Enfin, tu vois, il y a quand même ce truc entre local et global et aussi il y a eu des impacts, on peut en parler, économiques de la mondialisation, impacts locaux de la mondialisation. Comment on évite ou c'est quoi le bon équilibre entre local et global?
Bah, tu mets le doigt sur le sujet majeur, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure, la mondialisation que nous connaissons depuis 40 ans, c'est de l'interdépendance sans solidarité. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nos interdépendances et nos interconnexions sont mondiales. En revanche, les solidarités restent soit locales, soit nationales. Local, pourquoi? Bah, tout simplement parce que dans l'expérience du confinement, par exemple, en France, on redécouvre la force des solidarités à la fois familiales, amicales. Je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais autant pris de nouvelles de toutes mes connaissances, même des gens qui sont pas des amis proches. Il y a une sorte de surcroît d'attention et même de care tu vois, général dans la société, qui est extrêmement intéressant dans nos cercles de proximité. Et d'ailleurs, c'est un peu paradoxal parce que c'est dans le moment où on fait l'expérience de la séparation, puisqu'on est littéralement claquemuré chez nous, isolés, séparés les uns des autres, c'est-à-dire qu'on peut pas se rencontrer. Eh bien, c'est dans ce moment-là, paradoxal de séparation et de déliaison, que nous retrouvons la force de la liaison et de la solidarité de proximité. Donc là, il y a quelque chose de très beau qui se joue. Mais à côté de ça, il y a aussi des solidarités organisées. Et qu'est-ce que c'est qu'une solidarité organisée? Ben, c'est une solidarité au niveau d'une société. Et le facteur d'organisation de cette solidarité, c'est souvent l'État ou les communs. Et on voit que face au danger, puisque on a une vague qui arrive comme un tsunami, tu vois, sur nous, et il y a un peu de panique parce que on est confronté à un phénomène totalement nouveau qu'on sait pas traiter. Eh bien, le réflexe naturel, instinctif, si j'ose dire, c'est de faire jouer la solidarité nationale. Tu vois, par exemple, toutes ces fermetures de frontières, y compris à l'intérieur de l'espace Schengen. Elles ont été pas mal critiquées comme étant du nationalisme, etc. C'est vrai que c'est des mesures parfois pas très efficaces, pas bien coordonnées. Mais moi, je critiquerai pas ces dirigeants en les taxant de nationalisme. Je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui sont mus par l'envie de bien faire, mais qui face à la peur, en quelque sorte, s'agrippent à cette solidarité nationale qui est encore de manière très instinctive, très forte en nous. Surtout dans une Europe qui a pas beaucoup de réalité encore charnelle, si j'ose dire. On voit que c'est surtout un labyrinthe institutionnel qui a un peu du mal à réagir rapidement, à protéger les citoyens, etc. Donc on voit que on a un problème parce que d'un côté tu as des interdépendances qui sont globales et de l'autre tu as des solidarités qui sont locales et nationales. Et effectivement, moi j'ai écrit le livre évidemment avant le coronavirus. Et je ne veux pas jouer les prophètes, je n'avais pas du tout anticipé que cette crise sanitaire pourrait arriver. Moi, j'imaginais plutôt des crises économiques et sociales en cascade, mais au fond, la grille d'analyse est la même. Je plaidais dans mon livre pour un ralentissement, une maîtrise, une décélération de la mondialisation, grâce à la puissance publique, à différents échelons d'ailleurs, pour éviter justement un repli autarcique brutal et excluant. Et effectivement, aujourd'hui, on est confronté à cette situation limite, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit dans ton propos introductif, nous avions une phase de mondialisation extrême juste avant la crise. On n'avait jamais atteint ce degré d'interconnexion dans l'histoire. Il n'y avait jamais eu autant d'avions dans le ciel, il n'y avait jamais eu autant d'échanges commerciaux, il n'y avait jamais eu autant de flux financiers, il n'y avait jamais eu autant de flux de marchandises, etc. Et tout d'un coup, le monde est en train de se démondialiser. C'est très spectaculaire. Toutes les frontières ont été fermées. Il n'y a plus d'avions dans le ciel. Il n'y a plus de touristes. Les échanges commerciaux sont évidemment très perturbés. D'autant plus que les lignes de production chinoises ont été mises à l'arrêt pendant un trimestre. Les chaînes de valeur sont perturbées. La seule mondialisation qui continue aujourd'hui imperturbablement, c'est celle que toi et moi on est en train de pratiquer, par exemple, c'est la mondialisation de l'information. Et on découvre à quel point des outils comme Zoom sont extrêmement utilisés et à quel point on consomme de la bande passante dans cette crise. Mais le risque, c'est que on dégage de fausses explications et donc derrière de fausses solutions pour sortir de cette crise et qui est en quelque sorte un regain du discours autarcique. Et ce discours autarcique, d'ailleurs, il peut se décliner sur deux échelles. Il peut se décliner sur l'échelle nationale. En réalité, ce discours, il est déjà gagnant dans les urnes depuis une dizaine d'années, depuis la crise de 2008. Tu vois le Brésil, tu vois l'Inde, tu vois certains pays d'Europe centrale, ils sont dirigés par des leaders ultranationalistes, ouvertement racistes, qui trient les identités. Donc on voit que ce discours, il pourrait sortir renforcé de la crise. Le deuxième discours qui pourrait sortir renforcé, c'est le discours ultra-localiste. Tu vois, c'est un discours qui consiste à dire finalement la mondialisation en général ne nous apporte que des catastrophes, qui jetterait le bébé avec l'eau du bain, en quelque sorte, et qui dit, au fond, il faut se replier sur notre communauté locale. Tu vois, un discours un peu à la sauce survivaliste, comme on le voit déjà dans un certain cercle très élitiste de la Silicon Valley. Replions-nous sur notre sphère communautaire, vivons en autosuffisance. Sans se rendre compte d'ailleurs que c'est un discours extrêmement élitiste et extrêmement excluant, parce que par principe, il ne peut concerner qu'une minorité de gens, qu'un petit groupe de gens, et souvent un peu aristo dans la conception. Et moi, ce discours-là, je le vois, y compris dans la jeunesse éduquée, monter en puissance, monter très fortement. Donc, il va falloir que les gens qui croient encore à la force de l'interconnexion et au bienfait des échanges mettent un peu d'eau dans leur vin et adoptent cette voie que je proposais moi dans mon livre, qui était une voie de très forte régulation de la mondialisation grâce à la puissance publique, grâce à la redécouverte des communs, grâce à un certain nombre de solutions dont on pourra reparler.
Et justement, enfin, quelque part, quand on est comme ça confiné, on a envie de retourner à la normalité. Je te disais, j'ai publié cette phrase sur Instagram qui était en fait, on va pas retourner à la normalité, puisque la normalité qu'on avait, ça a été exactement le problème, en fait. Donc, a priori, on doit pas y retourner. Et toi, ce que tu m'expliquais, c'est que peut-être que la normalité sur laquelle on s'est basé, c'était pas forcément la bonne. Tu peux nous expliquer ça?
C'est sûr que entre 1945 et 1975, ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, on a eu une période assez inédite dans l'histoire du monde, puisque la croissance économique était très forte. Il y avait très peu de guerres, à l'exception de la guerre froide, mais qui n'a pas fait tant de morts que ça, finalement. Les progrès de la science et de la médecine ont été très importants. Et il y a eu une sorte de libération des individus et même une libération sexuelle à la fin des 30 Glorieuses, une libération, disons, vis-à-vis des schémas patriarcaux, de l'autorité, etc. Depuis 1975, la situation s'est un peu compliquée parce que la croissance est moins forte, il y a un peu plus d'incertitudes géopolitiques, etc. Mais globalement, on peut dire que nous avons vécu entre 1945 et aujourd'hui dans une sorte de bulle cognitive où la situation que nous jugeons normale, en réalité, n'est pas normale à l'échelle de l'humanité. Puisque à l'échelle de l'histoire de l'humanité, ce qui prévaut, c'est la guerre, la famine, les épidémies extrêmement meurtrières. Je te rappelle que la grande peste du XIVe siècle a, par exemple, décimé un tiers de la population européenne. Et que même si c'était plus localisé, les épisodes de choléra au XIXe siècle, tels que Giono les décrit par exemple dans Un hussard sur le toit, ils ont décimé un tiers de la population du midi de la France, et notamment dans la ville de Marseille. Donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même l'emballement d'un certain nombre de phénomènes qui sont liés à ces vulnérabilités dont je parlais tout à l'heure dans la mondialisation, qui sont liés à ces vulnérabilités dues à notre interconnexion. Aujourd'hui, le malheur, en quelque sorte, nous vient de l'infiniment petit, puisque c'est un microbe, un agent pathogène qui s'est propagé à la vitesse de la lumière, en quelque sorte, sur toute la surface du globe. Demain, les difficultés pourraient nous venir de l'infiniment grand, c'est-à-dire du changement climatique qui s'accélère et qui devient d'ailleurs déjà incontrôlable dans certaines régions du monde. Regarde, par exemple, les méga-feux en Australie. Donc, nous devons absolument nous adapter à cette nouvelle donne. Et nous adapter à cette nouvelle donne, c'est d'abord construire un surcroît de solidarité sur l'interdépendance, si nous voulons éviter la multiplication des catastrophes. Et puis, c'est développer aussi des politiques spécifiques de la vulnérabilité, ce qu'on ne sait pas encore assez faire. Et donc, c'est apprendre à être résilient. Et être résilient, c'est pas simplement les États qui peuvent le faire, mais c'est aussi les communautés, et c'est là que à la fois les sociétés, les entreprises, les associations, les individus, les intellectuels, les gens qui diffusent de l'information comme toi, ont une responsabilité écrasante.
Et en fait, tu parlais des 30 Glorieuses. Finalement, ce qu'on attend d'une société, c'est la sécurité. Et dans l'article que tu as publié, tu parles de cette triple sécurité qui est une sécurité économique, sécurité physique et puis une sécurité sanitaire. Et en fait, on a vu que ce soit à travers 2001, donc les terroristes du 11 septembre, 2008, la crise financière et puis là, la crise sanitaire. En fait, cette sécurité, elle est totalement mise à mal aux trois niveaux où on l'attend finalement. Donc il y a aussi ça qui sont c'est en train de définir le 21e siècle, ces trois crises quelque part.
Eh bien, tout à fait. Si on remonte aux sources de la modernité politique, je vais le faire avec deux documents, deux images auxquelles je renvoie tes auditeurs. La première image, c'est une fresque qui se trouve dans le palais communal de la ville italienne de Sienne. Voilà, on est à nouveau ramené vers l'Italie. Et cette fresque, elle a été peinte par un peintre qui s'appelle Ambrogio Lorenzetti. Et elle a été baptisée « Les effets du bon et du mauvais gouvernement ». Et elle se compose en fait en deux parties. D'un côté, tu as la ville de Sienne bien gouvernée, le bon gouvernement. Et de l'autre, tu as la ville de Sienne mal gouvernée. Et qu'est-ce que tu vois ? Tu vois que la ville de Sienne mal gouvernée, elle est en proie à des invasions étrangères, donc des agressions physiques des citoyens. Elle est en proie à une crise économique liée aux mauvaises récoltes dans les champs. Et elle est en proie à la maladie et à l'épidémie. Donc tu vois que le mauvais gouvernement, c'est-à-dire celui qui ne prend pas soin des citoyens et de la paix publique, il entraîne à la fois la guerre, la crise économique et la maladie. Et dans le Léviathan de Thomas Hobbes, qui est le grand texte politique qui ouvre la modernité, dans l'édition originale, tu as ce qu'on appelle le frontispice, c'est-à-dire c'est une image en fait qui a été peinte à la demande de Thomas Hobbes pour représenter, symboliser le Léviathan. Et qu'est-ce que tu vois dans cette sur cette image ? Tu vois un souverain qui se tient de manière très imposante, puisque le Léviathan dans la Bible, c'est un animal monstrueux, au-dessus d'une ville. Et qu'est-ce que tu vois quand tu vois cette ville ? Tu vois que dans cette ville, il n'y a personne. C'est-à-dire que la grande place est vide. Donc, on peut supposer que les citoyens de cette ville, ils sont confinés dans leur maison. Si tu regardes de plus près avec une loupe, tu vois qu'il y a quand même quelques personnes qui se promènent sur la place, qui est déserte par ailleurs. Et ces personnes, en fait, elles ont, il y en a deux types, et chaque type a un uniforme bien particulier. T'as d'un côté les gendarmes, qui sont habillés dans leur uniforme et qui ont un mousquet dans la main. Donc c'est ceux qui sont chargés d'assurer la sûreté, c'est-à-dire de protéger la ville contre l'invasion, contre les agressions, contre la délinquance. Et tu as des médecins, et là tu peux les reconnaître très facilement parce qu'ils ont un masque à bec, tu sais, ces très longs becs qu'on utilisait durant le Moyen-Âge et la Renaissance pour protéger les médecins et les soignants de la peste. Donc qu'est-ce qu'elle symbolise cette image ? Elle symbolise qu'au fond, la finalité absolue de l'État, de la puissance publique, c'est de protéger les citoyens de trois choses, de l'agression physique, donc d'une atteinte à la sûreté, de la crise économique et sociale, donc d'une atteinte à la sécurité, puisque la sécurité, c'est l'absence de crise, et d'une atteinte, de les protéger aussi de la maladie et de l'épidémie, donc d'une atteinte à la santé. Eh ben, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous sommes actuellement dans une crise qui met en jeu la santé. Mais si on revient 10 ans en arrière et qu'on se plonge sur la crise économique de 2008, on était dans une crise qui mettait en jeu la sécurité économique et sociale des gens. Et si on remonte encore 10 ans en avant au 11 septembre 2001 et à la vague d'attentats terroristes qui a suivi cette attaque sans précédent sur Manhattan, eh ben, on a mis en jeu la sûreté physique des gens. Et le point commun de ces trois crises, c'est qu'elles ont suivi le même schéma, c'est-à-dire qu'elles sont très liées à la mondialisation et à l'interconnexion. Al-Qaïda, par exemple, c'était des réseaux actifs, des cellules actives partout dans le monde qui utilisaient les moyens modernes de la technologie. La crise financière, elle s'est propagée, je le disais tout à l'heure, grâce aux imbrications de bilan des différentes banques dans le monde entier. Et là, l'épidémie, elle se propage grâce aux gens qui voyagent en avion. Donc tu vois que les trois composantes de la paix civile qui sont au fondement du pacte moderne, de la politique moderne, ont été mises l'une après l'autre en jeu ces 20 dernières années. Donc finalement, nous sommes à un tournant historique, je pense, et ce qu'il va nous falloir faire, c'est repenser, si tu veux, une nouvelle équation dans laquelle l'interdépendance, je le répète, s'accompagne de plus de vigilance, de plus de résilience et de plus de solidarité. Sinon, nous aurons les replis autarciques et nous irons au devant de grandes catastrophes.
Et justement, quelque part, il y a un certain nombre de critiques qui disent que ben là, c'est l'Occident qui pose le genou à terre par rapport à finalement l'Orient ou en tout cas l'Asie, qui s'en sort plutôt grandi finalement, en tout cas qui aujourd'hui, même si tu l'as dit au début, la Chine n'a pas été très transparente sur les conséquences et sur la gravité de la problématique. En quoi ça peut être une opportunité ou une chance, ce qui nous arrive en fait ?
Ben, ce qui nous arrive ne sera une opportunité ou une chance que si nous sommes capables de transformer cette expérience en une véritable leçon pour la suite. Moi, ce qui me fait peur, c'est que on surmonte plus ou moins bien cette crise, et qu'il y a un retour à la normale qui se fasse à plus ou moins brève échéance, comme après la crise de 2008, tu vois, sans qu'on se pose les questions fondamentales et structurelles. Tu vois, après la crise de 2008, par exemple, on s'est pas du tout posé les questions fondamentales de l'avenir du capitalisme, de sa régulation, de son lien avec la transition écologique, etc. On a déclenché l'extincteur pour éteindre l'incendie, et je dois reconnaître qu'on l'a bien fait, notamment grâce aux banques centrales. Mais le paradoxe, c'est qu'on l'a tellement bien fait, si tu veux, qu'on ne s'est pas posé les questions qui fâchent. Tu vois, et donc on a tout est revenu à la normale. En tout cas, c'est ce qu'on croyait, parce que si tu veux, dans la société, il y a eu des séquelles très importantes. Et une partie de la crise démocratique qu'on vit aujourd'hui, avec la montée en puissance des populismes, avec le désengagement vis-à-vis de la politique, est très liée aux effets de cette crise de 2008. Tu vois. Donc le grand risque qui nous guette après la crise que nous traversons, dont encore une fois je ne sais pas quand ni comment nous allons en sortir, c'est que nous ne soyons pas capables de la même manière d'en tirer les conséquences et les leçons. Et que par conséquent, nous retrouvions l'illusion d'une normalité, alors que la société, hein, dans ses entrailles, continue de se détériorer et de se déglinguer, que le changement climatique continue de s'accélérer et que finalement, nous continuons notre course vers l'abîme.
Et justement, c'est ça qui peut être... Enfin, moi, c'est ce qui me fait peur aussi. J'aimerais comprendre comment on peut éviter ça d'abord, évidemment. Mais c'est vrai que quand on regarde la gestion de la crise en France, par exemple, où la crise est arrivée en Chine en décembre. Donc, c'est pas comme si on n'était pas au courant. On aurait pu reconstruire des stocks de masques. A priori, c'est pas une question financière. C'est pas non plus une volonté de nuire du gouvernement. Donc, c'est vraiment un sentiment... alors, je ne sais pas si c'est un sentiment d'impunité ou simplement une incapacité à mettre l'économie ou l'économique de côté, ou la financiarisation du monde de côté. Mais ce qu'on voit, c'est que quelque part, ils ont ignoré le problème. Hein. Enfin, ils ont ignoré la situation. Donc, c'est intéressant de voir, parce qu'effectivement, ça semble être... Bon, maintenant, avec le recul, c'est toujours un peu facile, mais être du bon sens de se dire, bah, oui, en fait, là, il y a une crise en Chine, c'est évident que ça va arriver jusqu'en France, parce que mondialisation oblige, ça va arriver, c'est une évidence. Donc, on reconstruit des stocks. Sauf que ces décisions, elles n'ont pas été prises. Donc, quelque part, il y a aussi une... Je sais pas, comme si pas une ignorance, parce que je pense pas que ce soit une ignorance, mais simplement une volonté de pas regarder quelque part.
Moi, je me prononce pas tellement sur la gestion de crise, parce que là on est dedans.
Non, bien
et
sûr.
Et je pense qu'il faut vraiment faire corps derrière à la fois les soignants qui sont héroïques, derrière toutes les fonctions vitales dans la société. Je t'en dirai un mot tout à l'heure, d'ailleurs, si tu veux, sur la hiérarchie des métiers que ça implique cette crise. Et derrière nos autorités publiques. Et à leur décharge, je voudrais quand même dire une chose, c'est que les Chinois ont quand même dissimulé l'ampleur du problème au début. Ils ont détruit des preuves scientifiques, ils ont empêché certains médecins de s'exprimer, et donc l'information, notamment durant le mois de décembre, qui aurait été très utile, cette information, elle n'est venue en Europe que de manière très parcellaire. Et donc effectivement, il peut y avoir un effet d'accélération qui a surpris, qui a pris tout le monde de court. Je voudrais te dire une chose sur les métiers, parce que c'est intéressant de voir ceux qui restent au contact dans la crise que nous vivons. Beaucoup de gens, notamment ceux qui peuvent télétravailler, ce que j'appelle moi les manipulateurs de symboles dans mon livre, hein, tu vois, c'est-à-dire ceux qui au fond n'ont besoin que d'un ordinateur et d'un clavier pour produire de la valeur. Au fond, est-ce que c'est cette valeur-là qui est la plus importante pour la société? En tout cas, c'est ceux qui ont le plus de zéros sur leur feuille de paye. mais c'est ceux qui aujourd'hui sont planqués chez eux en quelque sorte, et je suis pas certain au fond que la valeur sociale de ce qu'ils produisent est à la hauteur de la valeur économique de ce qu'ils produisent, ou de l'utilité dans l'absolu. Et tu vois qu'à l'inverse, ceux qui ne sont pas sur leur ordinateur, ils sont au contact. Alors évidemment, on parle beaucoup et à juste titre des soignants, les infirmiers, les médecins, les anesthésistes réanimateurs, les aides-soignantes, etc. Mais il n'y a pas que les soignants, il y a tous ceux que j'appelle, moi, dans mon livre, les métiers du lien, qui sont des métiers sédentaires, c'est-à-dire des métiers qui s'adressent à un public et à une communauté locale. Et dans ces métiers, tu as évidemment les caissières dans les supermarchés, tu as les boulangers, tu as les éboueurs, hein, qui font que nos rues sont propres chaque matin et que les poubelles ne prolifèrent pas, avec tout ce que ça peut comporter de danger pour la santé aussi. Tu as les contrôleurs et les conducteurs de train de la SNCF. Tu as les enseignants qui continuent à assurer par voie dématérialisée l'enseignement. Bref, tu as tous ces métiers du lien et du liant qui font que la société tourne, tu vois. Eh ben, ces métiers, en temps normal, on ne les remarque presque pas. Tu vois, qui se soucie des éboueurs qui passent à 5 heures du matin? Quand tu sors de chez toi le matin, la rue est nickel, tu penses pas à l'éboueur qui est passé aux aurores pendant que tu dormais ramasser les poubelles. Qui se soucie du technicien Orange qui fait la maintenance du réseau? Personne, sauf que quand le système se grippe, tu vois, quand un incident survient, on se rend compte à quel point nos sociétés sont construites sur des réseaux matériels et des réseaux même du lien social extrêmement complexe, et à quel point ben, il y a des gens qui font tourner cette infrastructure, et que ces gens, ils sont essentiels à la vie de la société, tu vois. Quand j'ai une coupure d'électricité chez moi, parce qu'il y a eu un court-circuit sur une ligne à haute tension, je me rends compte que le réseau matériel qui m'amène l'électricité, ben, il est complexe, ça tombe pas du ciel. Et ben, de la même manière, quand la société se met brutalement à l'arrêt, on se rend compte qu'il y a une machinerie sociale extrêmement complexe, et que cette machinerie sociale, contrairement à ce qu'on croit quand on s'en rend pas compte, elle tourne pas toute seule, hein. Elle tombe pas du ciel. Il faut des gens pour la faire tourner. Il faut des aides-soignantes. Il faut des infirmières dans les EHPAD. Il faut des enseignants qui prennent en charge les gamins. Il faut des éboueurs qui ramassent les ordures le matin. Il faut des caissières dans les supermarchés. Et si ça peut avoir une vertu, cette crise, puisqu'il faut essayer de trouver dans toute situation des ressources positives, eh ben c'est qu'on se rende compte que ces métiers-là, souvent invisibilisés ou dévalorisés, eh ben en fait, c'est ceux qui ont la plus grande valeur sociale. Je suis pas sûr que les traders en ce moment soient les métiers les plus importants pour faire face. En revanche, je suis sûr que les éboueurs, les caissières et les médecins, on en a besoin.
En fait, c'est marrant parce que dans la définition que nous a donnée Adam Smith de l'économie, on a le capital, le travail et la terre. Et on a la sensation que, en fait, on a survalorisé le capital et complètement oublié le travail et la terre. Et le travail en particulier, je pense, dans un petit village avant, les fonctions qui étaient le policier, le professeur, le postier, le médecin, c'était des fonctions qui étaient extrêmement respectées dans la société. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, en fait. On a, comme je disais à l'instant, survalorisé le capital. Et c'est peut-être ça aussi le problème de l'hypermondialisation et de l'hyperfinanciarisation du monde, non ?
Tu as tout à fait raison. Si tu veux, l'hypermondialisation, c'est d'abord une hypermondialisation du capital, parce que le capital, par nature, à part le capital immobilier ou les machines, mais le capital financier, on va dire, qui est la dimension essentielle du capital à l'âge du capitalisme financier, il circule assez facilement, puisque c'est d'un clic de souris que tu peux déplacer un plan épargne-action qui aujourd'hui est en France, tu peux le déplacer à Singapour, aux États-Unis, d'un clic de souris. Donc le capital circule beaucoup plus vite que le reste des facteurs de production. Et donc, effectivement, on est dans une situation où les autres facteurs, que sont le travail, la terre, ont été dévalorisés. Et moi, je pense que penser le capitalisme, ou plutôt la régulation du capitalisme, à l'ère du défi de la soutenabilité, eh ben, c'est justement penser un rééquilibrage entre tous ces facteurs de production. Bien sûr qu'il faut du capital pour conduire des projets entrepreneuriaux. Je veux dire, sans capital, tu n'aurais pas eu les plus belles aventures économiques ou industrielles qu'on a connues ces 50 dernières années. Mais il faut pas oublier que ce qui fait tourner la machine, c'est aussi et d'abord les travailleurs, et que c'est aussi, quand on parle de nourrir les hommes, la terre, et que toutes ces dimensions-là doivent être traitées avec, disons, égalité, et doivent être équilibrées les unes par rapport aux autres.
Ok, super. Et donc, ce podcast s'appelle Vlan. Je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte.
Écoute, je voudrais ouvrir grand les fenêtres pour qu'un grand courant d'air frais nous arrive et chasse tous les microbes, les mauvaises pensées, les mauvaises passions aussi, les passions tristes. Et que à la place, on prenne une grande inspiration d'oxygène, comme Nietzsche dans Le Gai Savoir, et que nous repensions tout de fond en comble, du sol au plafond.
Super, merci beaucoup David.
Merci Greg pour ton invitation.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt !